vous écoutez Contre toute attente, Francis vous conduit dans une évocation de la vie de Martin Luther King en compagnie de Serge Mola. Serge Mola a publié un ouvrage sur ce prix Nobel de la paix. Ce livre s'intitule « Les idées noires de Martin Luther King ». Il est publié aux éditions Labor et Fides à Genève. La communauté noire américaine a fait de Martin Luther King son Josué, du nom de cette figure biblique qui a permis au peuple d'Israël de conquérir la terre promise. Certains l'ont même associé à Moïse, un autre personnage biblique, le grand leader qui fit sortir d'Égypte le peuple d'Israël. Une évocation de cet appel adressé à Moïse nous est proposée par Louis Armstrong.
Go down, Moses, way down in Egypt land.
Land.
Let my people go.
Oppressed so hard they could not stand.
Let my people go.
So the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way
down,
down in Egypt land. Tell all Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Said,
let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead.
Let my people go.
'Cause the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaoh
to let my people.
Serge Mola, nous venons d'évoquer ensemble le fameux I Have a Dream, le discours de Martin Luther King à Washington le 28 août 1963. Vous venez de nous le dire en évoquant différentes péripéties qui ont suivi cette période assez euphorique. En fait, le rêve de Martin Luther King à ce moment-là tourne rapidement au cauchemar. Pourquoi ?
Si le I Have a Dream speech est cette période marque d'une certaine manière l'apogée, les mois qui suivent sont néanmoins très difficiles. Il y a eu notamment la mort du président Kennedy, l'attentat de Birmingham, mais il y aura encore la mort de jeunes participants au mouvement, et cela pendant l'année 64, où Martin Luther King reste la figure connue nationalement, internationalement, connue et reconnue, écoutée, invitée régulièrement à la Maison Blanche, alors même que les difficultés pour inscrire les Noirs afin qu'ils puissent voter sont toujours énormes, et que tous ceux qui peuvent entraver le mouvement en faveur des droits civiques le font.
Mais là, Lyndon Johnson, qui prend la succession de John Fitzgerald Kennedy, assassiné, va quand même permettre à Martin Luther King de voir sa revendication en faveur de l'exercice des droits civiques couronnée de succès.
1964, King et son organisation, liée aux autres organisations d'ailleurs, mettent l'accent particulièrement sur cette question du vote, 1964 et 65. 64, c'est aussi l'année où King va être le récipiendaire du prix Nobel. Il est donc important d'écouter cet homme que le monde entier, ou en tout cas que les grands, écoutent. C'est dans la ville de Selma que la plupart des opérations liées au droit de vote vont se dérouler. Selma en Alabama, où vont se succéder manifestations, campagnes pour inscrire les Noirs sur les listes électorales. Et après des mois de travail et d'occupation de cette ville par l'organisation de King et les autres affiliés, effectivement, le président Lyndon Johnson signera un texte qui réaffirme solennellement, officiellement, le droit de vote des Noirs.
Dans votre livre, lorsque vous parlez de la vie de Martin Luther King, vous avez une nouvelle période qui commence. Vous parlez de ces années qui courent de 1965 à 1968 comme des années de crise. Pourquoi ?
Suite à cette grande campagne de Selma, qui est au fond couronnée de succès vu la signature par le président Johnson, le pays estime en avoir terminé avec ce qu'on appelle à l'époque le problème noir, qui est d'ailleurs plus un problème blanc qu'un problème noir. Il pense en avoir terminé puisque tout ce qui organisait, sous-tendait la ségrégation, tous les signes visibles de la ségrégation, que ce soit dans les lieux publics, que ce soit dans les transports, les questions de vote, tout cela a été réglé. Donc, officiellement, extérieurement, le problème est réglé. Néanmoins, bien sûr, le racisme occupe d'autres espaces que les espaces immédiatement visibles, et ce sont les espaces de la pauvreté et du travail, voire de la place des Noirs au cœur de la société américaine.
Donc on voit là Martin Luther King quelque part reprofiler un peu son action, non plus en faveur des droits civiques, puisque la question semble en tout cas pour le moins résolue, mais plutôt en faveur d'une militance pour plus d'équité au sein de la société américaine.
C'est cela, dès 66, King va pour la première fois s'installer dans le Nord, à Chicago, pour souligner les demandes de son organisation concernant le logement, l'emploi et l'intégration scolaire dans cette ville.
Donc là, Martin Luther King déménage et prend un logement dans un quartier très pauvre de Chicago.
Exactement. Mais il découvre très vite que la situation du Nord est extrêmement différente de celle du Sud. Il la connaît moins et l'impact de l'église ou des églises noires dans le Nord est tout autre que dans le Sud.
Donc là, il y a véritablement une sorte de fossé culturel entre un Sud très marqué par la foi chrétienne et un Nord qui est beaucoup plus industrialisé, qui connaît beaucoup plus des tensions sociales au niveau d'une certaine pauvreté, d'une certaine exclusion.
Oui, il faut dire aussi que les églises noires n'ont pas joué le même rôle dans le Nord, car si dans le Sud, elles étaient le seul lieu autogéré pour les Noirs, dans le Nord, il en est quand même tout autrement. Par ailleurs, à côté de ce problème lancinant de la pauvreté auquel s'attaque Martin Luther King, il y a une question qui préoccupe beaucoup King dès 65, même s'il en parle d'abord uniquement à ses proches et peut-être dans quelques prédications, mais peu officiellement, c'est la présence américaine au Vietnam.
Donc là, Martin Luther King va prendre publiquement position contre l'intervention des États-Unis au Vietnam.
Oui, c'est-à-dire que peu à peu, il est très touché, très sensibilisé à cette question. Il se rend compte aussi que si les Noirs peuvent mourir ensemble au Vietnam, et c'est vrai que l'armée est un lieu d'intégration fort, leurs corps ne peuvent pas être enterrés ensemble dans le même cimetière, par exemple. Et non seulement il va en venir à dénoncer la présence militaire américaine au Vietnam, mais il va même lier peu à peu ces deux combats, celui contre la pauvreté et celui contre le militarisme.
Et là, on peut dire que dans la vie de Martin Luther King, cette prise de position hostile à l'intervention des États-Unis au Vietnam va quelque part le rendre plus marginal, va ternir son image. Si tant est qu'il soit préoccupé par son image, bien entendu. Mais en tout cas, on a l'impression que Martin Luther King connaît à partir de cette prise de position hostile à la guerre du Vietnam une certaine éclipse.
Je l'ai dit, dès 65, pour beaucoup d'officiels, le problème noir est réglé. Donc King est de toute façon beaucoup moins consulté, beaucoup moins invité à la Maison-Blanche. Et tout cela redouble lorsqu'il ose proférer quelques critiques concernant l'image de son pays à l'étranger. Cela atteindra son comble lors d'une conférence à propos de la guerre du Vietnam. Il déclarera une année jour pour jour avant son assassinat, c'est-à-dire le 4 avril 1967, il déclarera « Mon pays est le plus grand pourvoyeur de violence en ce monde ». La phrase sera imprimée en caractère gras dans les journaux le lendemain et les télégrammes et lettres afflueront sur son bureau et sur celui de son organisation pour dénoncer cette phrase, pour dénoncer cette prise de position et pour surtout ne plus soutenir son organisation et notamment financièrement.
Ce désengagement de pas mal de gens à l'endroit de Martin Luther King nuira à son action ?
C'est-à-dire que ces vives critiques ne viennent pas seulement de ceux qui lui ont toujours été hostiles, ils viennent vraiment maintenant beaucoup plus largement. Ce sont même ceux qui l'ont soutenu, par exemple, et soutenu énormément, par exemple, les milieux, certains milieux financiers américains, une partie de la communauté juive américaine et même certaines organisations noires vont dénoncer King, se démarquer de lui en lui disant « si tu touche à l'image des États-Unis à l'étranger, c'est tout le mouvement qui va y passer. Donc, il faut surtout pas parler de cela. » Et il se démarque de lui pour dire « Nous, on ne fait pas comme ça, donc continuez à nous soutenir. » Alors que King, lui, ne cesse de répéter « Moi, je ne peux pas installer une ségrégation au sein de mon propre esprit. »
Because of how I live, I had approached the gate. of the puritanee,
set me
all the purple
free.
And traditions of the past that enslave and
bind me,
Lord,
free.
Set me free
set
to really know my brother,
set me
set us free to love and honor one another,
set me
said I wanna
free.
Be free enough to openly express my feelings,
set me
gotta be free if I wanna be receiving any healing,
set me
free as a future in a baby. As you can see,
free
to be as much as you can be.
Après ce splendide Set Me Free du groupe A Cappella, nous retrouvons Serge Mola et Serge Carrel. Ils s'entretiennent de la vie de Martin Luther King, assassiné, rappelons-le, le 4 avril 1968.
En 1967, Martin Luther King se lance dans une campagne pour les pauvres.
Le contexte, c'est qu'il y a cette guerre au Vietnam. Il y a un début de montée du pacifisme, il y a des problèmes de pauvreté très graves, il y a encore des problèmes d'inscription pour pouvoir voter, et il y a des émeutes dans le Nord, assez fréquentes et graves également. Donc la situation est de plus en plus critique, et c'est dans ce contexte-là que King et son organisation se disent qu'il faut proposer, lancer une action de grande envergure. Et cette action sera la campagne en faveur des pauvres. Pauvre, non pas pauvre noir, ni pauvre blanc, mais pauvre de façon générale. C'est-à-dire qu'elle rassemblera noirs, blancs, hispaniques, chicanos, indiens, donc toutes les franges de la société atteintes, touchées par la pauvreté.
Martin Luther King va vraiment élargir le champ de sa militance.
Il a une autorité suffisante pour pouvoir rassembler avec lui, autour de lui, différentes communautés dont les intérêts sont au fond divers. Et c'est sous son autorité que cette campagne s'organise peu à peu au fil des mois. L'idée, c'est de conduire à une manifestation importante où toutes ces communautés seront rassemblées à Washington, camperont à Washington, jusqu'à ce que des fonds pour lutter contre la pauvreté soient débloqués. King ne verra jamais cela puisqu'il sera assassiné en avril, avant que cette campagne ait lieu.
Martin Luther King est assassiné à Memphis. Qu'est-ce qu'il fait à Memphis en avril 1968 ?
Depuis des mois, il prépare cette campagne. Mais en même temps, il reste attentif aux problèmes locaux. Et fin mars, il se rend à Memphis pour diriger une marche de protestation en faveur des éboueurs noirs de la ville. La manifestation est préparée à la hâte, trop vite, et elle sombre dans la violence. Au point que King se voit obligé de revenir pour une nouvelle manifestation afin d'effacer ce qui pourrait être préjudiciable à la campagne. Donc il revient début avril pour participer à une manifestation cette fois bien orchestrée, bien préparée, à Memphis. Il sera assassiné la veille.
Il y a toute une série de spéculations qui tournent autour de cet assassinat. Quelle est votre hypothèse ?
Depuis une trentaine d'années, un homme, James Earl Ray, se trouve en prison après avoir été condamné pour l'assassinat de Martin Luther King. Contre lui, des empreintes sur une carabine qui a effectivement servi à cet assassinat. Cet homme a toujours nié, disant qu'il avait voulu acheter cette carabine et que c'est la raison pour laquelle ses empreintes se trouvaient dessus. Il n'a effectivement pas été arrêté dans les minutes qui ont suivi, mais quelques heures plus tard. Et sa thèse, difficile de la vérifier. Maintenant, je crois qu'il faut surtout se rappeler qu'énormément de gens avaient intérêt à ce que King meure. King dérange à cette période. Il est en train de faire monter la vague pacifiste avec d'autres. Il s'oppose à l'image de son pays à l'étranger. Il réclame et organise une importante campagne en faveur des pauvres, qui pourrait coûter très cher en termes d'impôts, par exemple. Donc, il dérange. Donc, il s'agit de l'éliminer. Maintenant, qui a orchestré la chose ? Il est bien difficile de le dire. J'ai envie de dire qu'on pourrait peut-être répondre au pluriel à cette question. Il est probable que le FBI, le Bureau fédéral d'investigation, savait un certain nombre de choses. Maintenant, les divulguera-t-il ?
Tout comme pour l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, il y a toute une série d'hypothèses qui tournent autour de l'assassinat de Martin Luther King, et certains voient dans le FBI l'instigateur de cet assassinat. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge Mola ?
Non, je ne crois pas que le FBI est l'instigateur. Je crois que peut-être il sait un certain nombre de choses sur cet assassinat possible, mais je ne crois pas que Edgar Hoover, qui dirigeait ce bureau, malgré sa haine de Martin Luther King, sa haine des Noirs, je ne crois pas qu'il aurait franchi un tel pas. En revanche, ce qui est connu aujourd'hui, c'est que le FBI s'est intéressé à King depuis 1955 et qu'il a essayé de le déstabiliser de diverses manières. Tout d'abord en montrant que King était très fortement influencé par un ex-communiste blanc, donc cela portait le soupçon de communisme sur l'ensemble de l'organisation de King. Il a essayé de déstabiliser King d'un point de vue moral, en critiquant sa vie, et notamment sa vie personnelle et conjugale, et en montrant enfin ses options radicales à comprendre de gauche au niveau politique. Et ce qui est intéressant peut-être à noter, c'est que dès les années 60, King est sur écoute, et que c'est Robert Kennedy qui signe l'autorisation de mettre Martin Luther King sur écoute.
Ce qui frappe lorsque l'on lit les prédications de cette période, donc de 1967-68, c'est que à plusieurs reprises, Martin Luther King revient sur certains indices ou certaines indications presque prémonitoires concernant sa propre mort, son propre assassinat. Comment est-ce que vous percevez cela ?
Les regards à ce sujet peuvent varier. Certains lisent chez King l'amorce d'une dépression, par exemple. Effectivement, il mentionne à plusieurs fois sa mort, il dit ce qu'il aimerait entendre. Non pas qu'il a reçu le prix Nobel ou de nombreux prix, mais qu'il a essayé d'être le tambour majeur de la justice, par exemple. Il évoque sa mort, il se compare d'une certaine manière à Moïse, et notamment la veille de sa mort, dans une petite église de Memphis. Il se compare à Moïse en disant « J'ai vu la terre promise, il se peut que je n'y pénètre pas avec vous, mais je veux vous faire savoir ce soir que notre peuple atteindra la terre promise. » Donc il anticipe, il annonce, tout en disant bien que lui n'ira pas avec son peuple d'une certaine manière. Prémonition diront les uns, hasard diront les autres. Je crois que la situation est depuis des mois très difficile, les pressions énormes, les menaces constantes. King sait tout cela, il a perçu que cela faisait partie de l'étroitesse du chemin sur lequel il s'est engagé des années auparavant.
les Edwin Hawkins Singers dans I Heard the Voice of Jesus. Vous venez d'entendre Serge Mola évoquer la vie de Martin Luther King au micro de Serge Carrel. Serge Mola est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Les idées noires de Martin Luther King ». Il est paru aux éditions Labor et Fides à Genève. Pour aujourd'hui, contre toute attente, c'est terminé, mais il y aura une suite à cette évocation de la vie de Martin Luther King. Ce sera pour le prochain contre toute attente. Francis vous salue et vous dit à bientôt. Bye bye.